France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
On le sait, une grande part de la correspondance de Madame de Sévigné est constituée des lettres qu'elle écrivait à sa fille, Madame de Grignan. On le sait aussi, la marquise vouait à sa fille une véritable passion et pendant très longtemps ne supporta pas la séparation que lui imposait le mariage de cet enfant. La comtesse de Grignan, de son côté, ne supporta sa mère que de loin pendant très longtemps, au point que sa présence à ses côtés a pu, à certains moments, la rendre physiquement bien malade. Bref, leur histoire ne fut pas un long fleuve tranquille et a pu constituer pour certains une sorte de cas d'école des relations mère-fille. En 2002, c'était d'ailleurs ce modèle Sévigné que Christine Goémé avait choisi d'examiner dans le dernier volet d'une série des Chemins de la connaissance consacrée au rapport mère-fille, avec pour invité la psychanalyste Marie-Magdeleine Lessana, dont l'essai « Entre mère et fille, un ravage » était réédité. Comment, selon Marie-Magdeleine Lessana, se démêla le sac de nœuds qui liait les deux femmes ? C'est ce que nous allons entendre dans cette émission, illustrée de la lecture d'une lettre de Madame de Sévigné à sa fille par Marcel Jouandeau. Les chemins de la connaissance, mère et fille, le modèle Sévigné, première diffusion le 14 juin 2002 sur France Culture.
Inutile de présenter ici la correspondance de Madame de Sévigné à sa fille, Madame de Grignan. Tout le monde la connaît et peut se la procurer, on la trouve notamment dans la Pléiade. Cet exemple d'amour fou, incendiaire et magnifique d'une mère pour sa fille finira de la meilleure façon possible. Il faut dire qu'on a affaire là à deux femmes, Madame de Sévigné comme Madame de Grignan, intelligente et cultivée. Dans votre livre « Entre mère et fille, un ravage », vous écrivez Marie-Madeleine Lessana, je cite « Le ravage entre fille et mère n'est pas un duel, ni le partage d'un bien. C'est l'expérience qui consiste à donner corps à la haine torturante, sourde, présente dans l'amour exclusif entre elles, par l'expression d'une agressivité directe. Il révèle l'impossible harmonie de leur amour, qui se heurte à l'impossible activité sexuelle entre elles. Et encore, à propos du cas qui nous intéresse aujourd'hui, la mère n'a esquivé ni l'agressivité ni les reproches, elle a même souhaité s'y confronter en présence de sa fille. Il me semble que nous avons ici non seulement l'expérience du ravage, mais aussi l'épreuve de sa traversée jusqu'à sa résolution.
Madame de Sévigné a été veuve très tôt et elle s'est trouvée donc mère d'une fille et d'un garçon avec un mari qui était mort en duel du fait de sa vie
de débauche.
Libertine. Oui, c'est ça. Et elle a voulu assainir sa vie et les valeurs dans lesquelles elle élèverait ses enfants, c'est-à-dire écarter la mauvaise réputation de leur père pour ne garder que des valeurs saines, d'intelligence, d'esprit, de beauté, d'élégance et de noblesse. Donc, Madame de Sévigné voulait réussir pour sa fille. Pourrait le dire comme ça exactement. Réussir pour sa fille, alors qu'elle était considérée comme une femme extrêmement brillante, talentueuse, et belle. Elle avait une réputation déjà très, 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 très établie dans la cour de Louis XIV. Et Madame de Sévigné a poussé sa fille en avant. Et en quelque sorte, la fille est devenue en effet celle qu'on a nommée la plus jolie fille de France. Et elle a été désirée par Louis XIV, ce qui était quand même un problème, puisque elle ne pouvait pas devenir l'épouse officielle de Louis XIV. Donc, Madame de Sévigné, à la fois, avait réussi au-delà de ses espérances, et elle, en quelque sorte, elle avait sur les bras une fille qui devenait immariable, tellement elle avait bien réussi. Donc, il y a sur toute cette période toute une série de poèmes, de journaux, de textes, où il ressort que, en quelque sorte, la fille brillait, mais héritait de la brillance de sa mère. Mais que la mère prenait argument de sa fille pour briller, c'est-à-dire qu'il y avait entre elles déjà quelque chose de tout à fait... croisée au niveau de la brillance, c'est-à-dire que la fille, en quelque sorte, se trouvait n'être qu'à l'ombre de sa mère et ne faire qu'à servir, en quelque sorte, à l'éclat de sa mère.
Bon. Elle reprochera d'ailleurs à sa mère de lui avoir servi de rideau.
C'est ça.
Pour la cacher.
Alors que la mère prétend le contraire, évidemment. Et à cette occasion, on voit bien qu'elles ne font pas deux, ni deux, ni un. C'est-à-dire que cet éclat, en quelque sorte, est dans un jeu de cache, parure ou rideau. Dans ce jeu-là étonnant, qui est en effet déjà du côté de l'image et de l'imaginaire, du côté du semblé.
Alors, on rappelle à nos auditeurs que, donc, désirée par le roi, plus personne à la cour ne veut l'épouser, bien entendu,
oui.
De la crainte, de la jalousie royale, bien sûr. Si elle devient la maîtresse du roi, catastrophe, elle est, sa carrière, sa vie sont fichues, puisque maîtresse de roi, comme on sait, c'est un statut extrêmement fulgurant et éphémère. Donc, que faire de cette fille? On va finir quand même par lui trouver un veuf.
Un doublement veuf.
Un doublement veuf de province.
Un aristocrate doublement veuf.
Et de Provence.
Et qui cache le fait qu'il est quasiment ruiné, qu'il le cache à la mère, à Madame de Sévigné, qui en fait ne veut pas le regarder de si près les questions de dot et de fortune, puisqu'elle se dit « il faut absolument que je marie ma fille à tout prix ». Et déjà, elle avait rencontré de nombreux échecs, et en ce cas-là, la rencontre avec François de Grignan se fait, et les contrats... les arrangements se mettent sur pied et Françoise Marguerite de Sévigné se trouve donc mariée avec ce doublement veuf qui a deux filles d'un précédent mariage, donc avec le comte de Grignan, qui se trouve être, peu de temps après son mariage, nommé par le roi Louis XIV en Provence pour gouverner le gouvernement de Provence. Et donc doit quitter la capitale pour aller s'installer dans sa province. Et c'est à partir de là, c'est-à-dire à partir du moment où la fille de Madame de Sévigné est mariée avec le comte de Grignan et doit rejoindre son époux en Provence, que commence, on peut dire, l'apparition des éléments qu'on peut appeler ravages entre mère et fille, c'est-à-dire d'un côté, la mère est complètement addictive, amoureuse, addictive de sa fille, qu'elle veut garder auprès d'elle, qu'elle adore, et qu'elle adore sur fond que dès qu'elle s'éloigne ou qu'on envisage l'éloignement, elle vit la douleur du manque comme un arrachement physique, avec des idées de mort quasi hallucinatoires. Et du côté de la fille, quand elle est près de sa mère, rumine des reproches obscurs, boude, se prive de manger, s'habille mal, se recroqueville. Et dès qu'elle est éloignée de sa mère, elle respire mieux et peut déclarer son amour à sa mère et le fait que celle-ci lui manque. Mais dès qu'elle se rapproche de sa mère, la fille à nouveau dépérit, la mère va mieux. Et dès que la fille s'éloigne, la mère va mal. Et la fille va mieux, mais cette sorte d'élastique du manque et de l'addiction, parce que c'est un rapport complètement addictif, ne trouve aucune tempérance stable. C'est-à-dire c'est toujours dans le mouvement de proximité-éloignement.
Géographique.
Oui, c'est ça, géographique et corporel,
oui.
Que se passe, on pourrait dire, le poumon de ce ravage qui s'exprime à travers les lettres, somptueuses lettres, où se décline de la façon la plus subtile l'extrémité de leur excessive tendresse.
Alors, je vais lire cette fameuse lettre où Madame de Sévigné, justement, c'est en 1678, écrit à sa fille, elle lui laisse voir à quel point elle souffre de ses silences, de son indifférence, de son ton glacé.
Marcel Jouhandeau, 1954.
Mais je quitte ce discours pour revenir un peu à moi. Vous disiez hier cruellement, ma bonne, que je serais trop heureuse quand vous seriez loin de moi, que vous me donniez mille chagrins, que vous ne faisiez que me contrarier. Je ne puis penser à ce discours sans avoir le cœur percé et fondre en larmes. Ma très chère, vous ignorez bien comme je suis pour vous, si vous ne savez que tous les chagrins que me peut donner l'excès de la tendresse que j'ai pour vous sont plus agréables que tous les plaisirs du monde où vous n'avez point de part. Il est vrai que je suis quelquefois blessé de l'entière ignorance où je suis de vos sentiments. Du peu de part que j'ai à votre confiance, j'accorde avec peine l'amitié que vous avez pour moi, avec cette séparation de toutes sortes de confidences. Et plus que tout cela, ma bonne, admirez la faiblesse d'une véritable tendresse. C'est qu'effectivement, votre présence, un mot d'amitié, un retour, une douceur, me ramène et me fait tout oublier. Ainsi, ma belle, ayant mille fois plus de joie que de chagrin, et ce fond étant invariable, jugez avec quelle douleur je souffre et que vous pensiez que je puisse aimer votre absence. Vous ne sauriez le croire si vous pensiez à l'infinie tendresse que j'ai pour vous. Voilà comme elle est invariable et toujours sensible. Tout autre sentiment est passager et ne dure qu'un moment. Le fond est comme je vous le dis. Jugez comme je m'accommoderai d'une absence qui m'ôte de légers chagrins que je ne sens plus. Et qui m'ôte une créature dont la présence et la moindre amitié fait ma vie et mon unique plaisir. Joignez-y les inquiétudes de votre santé, et vous n'aurez pas la cruauté de me faire une si grande injustice. Songez-y, ma bonne, à ce départ, et ne le pressez point. Vous en êtes la maîtresse. Songez que ce que vous appelez des forces a toujours été par votre faute et l'incertitude de vos résolutions, car pour moi, hélas, je n'ai jamais eu qu'un but, qui est votre santé, votre présence, et de vous retenir avec moi.
Ce vieux monsieur de Grignan, parce qu'à l'époque...
Un vieux, il devait avoir 37 ans.
Oui, enfin, mais il était vieux pour l'époque.
Oui, c'est vrai.
Il était vieux, deux fois veuf, etc. Évidemment, trouve... un amour fou dans la personne de sa jeune épouse.
Oui.
Et naturellement, ça va poser beaucoup de problèmes à la mère que sa fille soit tellement entichée sexuellement
de
son mari.
Oui, 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 oui.
Elle a toujours envie d'aller coucher avec son mari, elle se retrouve enceinte en permanence.
Oui.
Et l'œil de Madame de Sévigné va surveiller ça avec beaucoup, beaucoup d'attention.
Oui, oui. Et même de, on pourrait dire, de... d'accusation.
Oui.
Elle souhaiterait que sa fille se contente d'avoir une fille et un garçon et qu'on en reste là, puisque en quelque sorte, elle va, pour défendre la santé de sa fille, parce qu'il est vrai quand même que les grossesses mettaient les femmes en danger très fortement à cette époque, et elle voyait que la santé et la beauté de sa fille étaient menacées d'être abîmées par le commerce sexuel avec l'époux et ses conséquences procréatrices, Madame de Sévigné se met en travers, donne des conseils, surveille
écrit à son gendre
les règles de sa fille et s'interpose d'une façon extrêmement assidue dans la vie sexuelle de cette fille avec son mari. Mais on voit bien que c'est très intéressant que elle a beau être amoureuse de son mari, avoir une vie sexuelle active, et le mari est sûrement amoureux d'elle, ceci ne fait pas le poids, on revient à l'affaire mère-fille, au regard du ravage entre mère et fille. C'est-à-dire, elle a un époux qu'elle aime et qui l'aime et qui a avec elle un commerce sexuel tout à fait satisfaisant. Il n'empêche que ça ne brèche pas, ça n'entame pas le caractère dévastateur de l'amour mère-fille, qui, tant qu'il n'a pas été, en quelque sorte, entamé par le point d'orgue de la traversée du ravage avec mon algèbre à moi, n'a pas sa place, si vous phallique, tierce, on pourrait dire tempérante, et, par rapport à cette dévastation qui est plus forte que tout. le grand talent de Madame de Sévigné, qui pourtant était une amoureuse passionnée de sa fille, et cet amour était dévastateur pour cette fille, en quelque sorte la détruisait, avec beaucoup de guillemets, hein, détruisait la fille, à son honneur, c'est qu'elle était très aimante, très honnête avec elle-même, et extrêmement lucide, et amoureuse de la vérité. Et c'est ça qui ressort absolument clairement dans les lettres, et ce qui explique que leur amour très intense, dévastateur et qui avait une difficulté à être réciproque, a pu prendre des tours dramatiques au fil des années, à travers les différentes grossesses de Madame de Grignan, Madame de Sévigné. D'ailleurs, il faut noter chaque fois que où elle, la mère et la fille se trouvaient avoir à se séparer physiquement ou à se retrouver, chaque fois c'était ponctué par une grossesse. Donc elle a été enceinte, je crois, au moins 6 fois. Et chaque fois, chaque conception est arrivée au moment donc ou d'une séparation ou d'une retrouvaille. Donc, dans un premier temps, ce ravage s'est donc manifesté, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire les avatars de l'amour passionnel, le manque de respiration du côté de la fille. Elle ne pouvait aimer sa mère qu'à distance, la mère ne pouvait aimer sa fille qu'en présence, donc ponctuée donc par des grossesses. Le deuxième temps s'est manifesté après que Madame de Grignan ait fait un premier acte significatif, symbolique, en faveur de son mari. Elle a donné une signature qui lui arrangeait ses affaires dans ses affaires financières au regard de l'héritage de ses deux filles, l'héritage maternel de ses deux filles d'un précédent mariage. Mais c'est tout à fait notable, et Madame de Sévigné n'était pas très pour cet acte de dévotion, enfin de conjugale, de Madame de Grignan envers son mari, et Madame de Sévigné appelait ça l'héroïque signature. En quelque sorte, Madame de Grignan renonçait à une partie de l'héritage de son mari au profit des filles du premier lit. Mais c'était un geste symbolique qui a eu des conséquences, qui a fait une sorte de première marque qui a balisé, on peut dire, cette dévastation entre mère et fille, mais qui s'est traduit dans un premier temps par un ravage très explicite, c'est-à-dire Madame de Sévigné a fait un rêve, cauchemar, où elle rêve qu'elle jouit physiquement, sensuellement, sexuellement, de sa fille qui, en position d'amant. Elle, à la suite de ça, elle a un symptôme invalidant, un rhumatisme invalidant qui l'empêche justement d'écrire. Par le jeu des lettres, Madame de Grignan apprend que sa mère est paralysée par ce rhumatisme. Elle en est absolument bouleversée et elle accouche prématurément d'un enfant dont la grossesse était restée clandestine. C'est-à-dire, s'il se passe un phénomène incroyable, c'est que pendant que l'une était en train de rêver une jouissance incestueuse avec sa fille, disons, l'autre était enceinte d'un enfant sans l'avoir dit à sa mère. Et là, on est dans autre chose, on est dans la culpabilisation de la destruction. On est dans les drames de la sensation d'être responsable de détruire l'autre, de la destructivité de l'autre. Et commence alors tout un champ de problèmes entre elles, où ce sont leurs maladies qui deviennent le mode, l'algèbre de leur correspondance, et leurs souffrances, chacune en quelque sorte, disant à l'autre « tu m'as fait ça » ou bien « ah mon Dieu, je t'ai fait ça ». Elle se vouvoie, bien sûr, mais on pourrait le dire en termes contemporains, on est dans le registre de la destructivité. Madame de Sévigné est tellement ravagée par l'idée que sa fille souffre de la prématurité de ce petit et de ce petit qui probablement ne verra pas le jour, qu'elle exige qu'elle laisse le petit, puis qui de toute façon est condamné, et qu'elle vienne auprès de sa mère pour calmer sa mère qui est malade. C'est quand même le devoir d'une fille de soigner sa mère malade. Et la fille, elle, est retenue auprès de son petit qui est quasi mourant et revendique la possibilité de garder la distance de sa mère vu qu'elle a un impératif catégorique, c'est l'enfant qui finit par mourir. Et Madame de Grignan donc perd cet enfant. Elle est très malheureuse de la mort de cet enfant et elle est complètement déchirée puisque en quelque sorte sa mère l'appelle pour venir être soignée par la présence physique de sa fille puisque en quelque sorte c'est cette présence physique qui lui donne la vie à Madame de Sévigné. Et elle vient à Paris auprès de sa mère après la mort du petit. Madame de Grignan ne supporte pas sa mère un instant. Et elle dépérit en présence de sa mère qui, elle, reprend un peu son élan. Et alors, donc, ça devient absolument dramatique. Madame de Grignan ne mange plus, devient très maigre, quasi neurasthénique, on peut dire, c'est-à-dire ne parle pas, évite le contact, va très mal. On dit, vous vous tuez l'une l'autre, il faut vous séparer. Et donc c'est dans cette ligne-là, avec toujours cette espèce de respiration, proximité, détachement, qu'un jour, Madame de Grignan est à Paris, chez sa mère, au plus mal. Elle refuse les remèdes, tout en écrivant des lettres alertes à son mari et... Alors qu'elle avait caché une grossesse à sa mère, c'est-à-dire donc la sexualité heureuse avec son mari, elle l'a cachée à sa mère, mais ça a donné un drame. Là, elle est avec sa mère en train de crever et elle cache sa maladie à son mari en faisant croire qu'elle va très bien. Donc on voit qu'elle est dans un balancement épouvantable entre mère et mari, en n'arrivant pas du tout à trouver un équilibre, un point de vérité où elle donnerait ceci à l'un et elle le reconnaîtrait comme bon, et ceci à l'autre qu'elle pourrait reconnaître comme bon. C'est-à-dire elle trouve absolument pas la limite, la balise. Donc c'est dans ce scénario-là que Madame de Sévigné se décide, et elle se décide à quoi ? À renoncer à la santé de sa fille. C'est-à-dire qu'elle s'aperçoit que plus elle veut le bien de sa fille, moins elle l'obtient, et donc elle va arriver, en quelque sorte, à l'achever. Elle voit qu'elle est possiblement, elle peut en mourir, la fille peut en mourir, et qu'autour, tout le monde accuse le mari d'assassiner sa femme avec les grossesses. Donc, on voit très bien, il y a une lettre de Madame de Sévigné qui dit à sa fille « Vous vous dévouez à votre mari, vous ne vous protégez pas, vous ne savez pas économiser vos forces, vous allez vers votre perte, mais je vois que je n'ai aucun pouvoir pour vous restaurer votre santé, j'y renonce et je vous donne à votre époux. » Elle renonce au bien qui donne le pire. Et à cette occasion, dans le même temps, c'est tout à fait intéressant, en tout cas c'est comme ça que je l'analyse, elle trouve dans l'opéra de Lully, Proserpine, qui est donné à Paris à ce moment-là, les éléments de l'interprétation, où dans le livret, il y a cette phrase « Une mère aime-t-elle mieux qu'un époux ?» Et plus loin, il y a « Pluton » aime mieux que Cérès.
Cérès étant la mère de Proserpine.
Oui, Cérès étant la mère de Proserpine, et Pluton étant l'époux qui a, en quelque sorte, enlevé Proserpine. Dans la correspondance, il y a cette citation où elle dit « Je n'y ai pas été voir, tout le monde a pensé que cet opéra me concernait, je n'y ai pas été, et pourtant je n'en aurais été point embarrassée, mais il n'empêche qu'elle prend elle fait cette citation qu'elle commente, et que personnellement je prends au sérieux comme le point clé de l'interprétation de l'acte qu'elle vient de faire. Elle a cédé sa fille à son époux, c'est-à-dire qu'elle a renoncé à la jouissance, à cette jouissance ruineuse, qui est cette jouissance incestueuse, non réalisable, impossible. Elle y renonce pour un amour qui n'est ni plus ni moins, mais mieux, cet amour étant celui qui coïncide avec le désir sexuel, avec l'époux. À partir de ce moment-là, la présence du mari a pris un autre tour, enfin sa présence qui était effective, désirante, présent, amoureux, etc., a pris un autre impact, une épaisseur, une consistance, une effectivité, une efficacité, une portée, une ampleur que je montre, c'est que peu de temps après, Madame de Grignan s'est engagée dans un procès tout à fait important pour la famille, pour la maison Grignan, un procès qui grévait la répartition même des terres et des biens Grignan, puisqu'il y avait, on ne va pas rentrer dans le détail, une famille, il y avait eu un échange de terres dans une histoire de trahison qui datait sur plusieurs générations, qu'il fallait régler. Et Madame de Grignan a trouvé la force, parce qu'elle a été positionnée comme il faut, elle est devenue pleinement l'épouse de son mari et en quelque sorte la maîtresse de la maison Grignan, à partir du moment où sa mère a renoncé à cette jouissance errante, mal placée, pour lui rendre, pour replacer sa position de femme et donc la jouissance sexuelle à sa place, à la place donc du jeu de la féminité et du désir. Et dans les faits, c'est une façon d'habiter sa génération et son nom, d'être porteuse. C'est l'habitation, c'est de ça dont il s'agit, c'est pas d'un tiers, c'est de l'habitation de ce qui, du symbolique, peut être donné dans une alliance. Et ça se manifeste par des biens, par de l'argent, par la nomination des choses qui font partie de cet ensemble qu'on appelle la maison. Et donc elle s'est défendue très très bien dans ce procès qui a duré, je crois, 6 ans, où elle est restée à Paris chez sa mère sans remous. Et elle s'est battue et ils ont gagné. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré cette terre, cette parcelle qui avait été cédée plusieurs générations avant dans un échange concernant un silence sur une trahison. Je vais même jusqu'à dire qu'à partir de cette période-là, c'est-à-dire la traversée du ravage, toute la famille a été subsumée sous le nom de la maison Grignan, Madame de Sévigné y compris. C'est-à-dire que elle s'est dévouée aussi au service donc de son gendre et de sa fille et de leurs enfants, et elle a terminé sa vie au château de Grignan.
Il faut dire juste peut-être que ensuite, évidemment, tout reste à recommencer pour la fille de Madame de Grignan.
C'est-à-dire que Madame de Grignan a eu plusieurs filles, mais dont une, Pauline, qui est la survivante et l'héritière. Pauline, elle a été non seulement conçue, mais élevée dans ses remous. Moi, je pense que si la traversée du ravage se fait le plus tôt possible, les enfants qui naîtront après en auront un certain bénéfice. C'est-à-dire auront plus de chances dans leur place en tant qu'enfants que ceux qui sont nés avant. Alors, pour préciser, Madame de Sévigné et Madame de Grignan ont réussi à aboutir cette sortie j'essaye de formuler. Il n'empêche que les enfants de Madame de Grignan sont nés avant. Et Pauline est une enfant qui est née largement avant le point d'orgue de la sortie du ravage pour Madame de Grignan. Donc elle est née dans le terreau de la tourmente, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et elle a hérité donc de la correspondance de la mère et de la fille. Et alors il y a toute une aventure de cette correspondance qui est absolument passionnante, où se rejoue un certain nombre de questions qui étaient déjà là dans les familles. Et Pauline, dans les avatars de son débat avec son cousin sur la censure ou pas de la publication de cette correspondance, elle a détruit toutes les lettres de sa mère à sa grand-mère. Et elle a donné comme ordre qu'une fois serait établie une correspondance, enfin une publication des lettres de Madame Sévigné censurée, on naufrage, on détruit aussi toutes les lettres de Madame de Sévigné à sa fille. Et c'est ce qui a été fait, mais des copies étant restées, ces copies ont eu un destin étonnant puisqu'elles ont disparu de la circulation et sont réapparues, certaines au XVIIIe, d'autres au XIXe siècle. Et donc, aujourd'hui, on a une série de lettres qui sont probablement toutes proches de l'original, sûrement il en manque, mais qui ont résisté au naufrage. Des lettres de Madame de Sévigné, alors que toutes les lettres de Madame de Grignan ont disparu.
Les chemins de la connaissance. Aujourd'hui, le modèle Sévigné avec Marie-Madeleine Lessana. Texte lu par Marcel Jouandeau. Groupe de réalisation Xavier Carrère, Jean-Marie Charon, Yann Lambré, Michel Mestre, Franck Lilin, Christine Goémé.
Vous venez d'entendre le modèle Sévigné avec la psychanalyste Marie-Madeleine Lessana au micro de Christine Goémé dans Les chemins de la connaissance. Première diffusion le 14 juin 2002 sur France Culture.